Petit bonhomme, chapitre 6. 18 ans à 2. Petit bonhomme respira comme il n'avait jamais peut-être respiré de sa vie. Longuement. Du bon air plein ses poumons. Dès que le comte Ashton, son piqueur et ses chiens eurent disparu. Et il est permis d'affirmer que Birk en fit autant, lorsque Petit bonhomme eut desserré les mains qui lui tenaient le museau, disant « N'aboie pas ! « N'aboie pas, Birk !» Et Birk n'aboya pas. C'était une chance, ce matin-là, que Petit bonhomme, bien décidé à partir, eût revêtu ses anciens habits, rassemblé et ficelé son léger paquet, glissé sa bourse dans sa poche. Cela lui épargnait le désagrément de rentrer au château, où le comte Ashton ne tarderait pas à apprendre à qui appartenait le meurtrier du pointer. De quelle façon le groom eût été reçu, on l'imagine. Il est vrai, à ne pas reparaître, il sacrifiait la quinzaine de gages qui lui étaient dus et qu'il comptait réclamer. Mais il préférait se résigner à cet abandon. Il était hors de Twillinger Castle, loin du jeune Piborn et de l'intendant Scarlett, son chien l'accompagnant, et il n'en demandait pas davantage et ne songeait qu'à s'éloigner au plus vite. À combien se montait sa petite fortune? Exactement à 4 livres, 17 shillings et 6 pence. C'était la plus forte somme qu'il eût jamais possédée en propre. Il ne s'en exagérait pas l'importance, d'ailleurs, n'étant pas de ces enfants qui se seraient cru riches de se sentir la poche si bien garnie. Non, il savait qu'il verrait promptement la fin de son épargne s'il n'y joignait la plus stricte économie. Jusqu'à ce que l'occasion s'offrit de se placer quelque part. Avec Birk, cela va de soi. La blessure du brave animal n'était pas grave par bonheur, une simple éraflure dont la guérison ne serait pas longue. En lui tirant dessus, le piqueur n'avait été guère plus adroit que le comte Ashton. Les deux amis partirent d'un bon pas dès qu'ils eurent rejoint la grande route au-delà du bois. Birk frétillant de joie, Petit bonhomme quelque peu soucieux de l'avenir. Cependant, ce n'était pas au hasard qu'il allait. La pensée de se rendre à Conturk ou à Newmarket lui était d'abord venue à l'esprit. Il connaissait ces deux bourgades, l'une pour l'avoir déjà habitée, l'autre pour y avoir accompagné maintes fois le jeune Piborn. Mais c'eût été s'exposer à des rencontres qu'il convenait d'éviter. Aussi savait-il bien ce qu'il faisait en redescendant vers le sud. D'une part, il s'éloignait de Twillinger Castle dans une direction où on ne chercherait pas à le poursuivre. De l'autre, il se rapprochait du chef-lieu du comté de Cork, sur la baie de ce nom, l'une des plus fréquentées de la côte méridionale. De là partent des navires marchands, des grands, des vrais, pour toutes les parties du monde, et non point des caboteurs du littoral, ni des barques de pêche, comme à Westport ou à Galway. Cela attirait toujours notre jeune garçon, cet irrésistible instinct des choses du commerce. Enfin, l'essentiel était d'atteindre Cork, ce qui exigerait un certain temps. Or, Petit bonhomme avait mieux à songer qu'à dépenser son argent en voiture ou en railway, et il n'était pas impossible qu'il parvint à gagner quelques shillings à travers les bourgades et les villages, comme entre Limerick et Newmarket. Sans doute, une 30aine de miles pour les jambes d'un enfant de 11 ans, c'était une jolie trotte, et il y emploierait une 8aine de jours, pour peu qu'il fît halte dans les fermes. Le temps était beau, déjà froid à cette époque, le chemin sans boue et sans poussière, excellente condition quand il s'agit d'un voyage à pied. Chapeau de feutre sur la tête, veste, gilet et pantalon de drap chaud, bons souliers avec guêtres de cuir, son paquet sous le bras, son couteau dans sa poche, cadeau de grand-mère, à la main un bâton qu'il venait de couper à une haie. Petit bonhomme n'avait point l'air d'un pauvre. Aussi devait-il se garder des mauvaises rencontres. D'ailleurs, rien qu'en montrant ses crocs, Birk suffirait à éloigner les gens suspects. Cette première journée de marche, avec un repos de 2 heures, se chiffra par un trajet de 5 miles et une dépense d'un demi-shilling. Pour deux, un enfant et un chien, ce n'est pas énorme, et la pitance de lard et de pommes de terre est maigre à ce prix-là. Quant à regretter la cuisine de Twillinger Castle, petit bonhomme n'y songea pas un instant. Le soir venu, il coucha un peu au-delà du bourg de Bonne Terre, dans une grange, avec la permission du fermier. Et le lendemain, après un déjeuner qui lui coûta quelques pence, il se remit gaillardement en marche. Même temps à peu près, des éclaircies entre les nuages. Le chemin fut pénible, car il commençait à monter. Cette portion du comté de Cork présente un relief orographique d'une certaine importance. La route qui va de Kanturk au chef-lieu traverse le système compliqué des monts Bogorag. De là, des côtes raides, des crochets fréquents. Petit bonhomme n'avait qu'à marcher droit devant lui, il ne risquait pas de s'égarer. D'ailleurs, il était dans sa nature de savoir s'orienter, comme un chinois ou un renard. Ce qui devait le rassurer, c'est que le chemin n'était pas désert. Quelques cultivateurs abandonnaient les champs et revenaient. Des charrettes se rendaient d'un village à l'autre. À la rigueur, on peut toujours s'informer de la direction. Toutefois, il préférait ne point attirer l'attention et passer sans interroger personne. Au bout d'une demi-douzaine de milles, enlevé d'un pas rapide, il atteignit Dewigovna, petite localité sise à l'endroit où la route coupe le massif des Bogorag. Là, dans une auberge, un voyageur qui était en train de souper lui adressa deux ou trois questions. D'où il venait, où il allait, quand il comptait repartir, et très satisfait de ses réponses, lui proposa de partager son repas. Comme c'était de cordiale amitié, petit bonhomme accepta de bon cœur. Il se réconforta largement, et Bert ne fut point oublié par le généreux amphitryon. Il était fâcheux que ce digne Irlandais n'eût pas affaire à Cork, car il aurait offert une place dans sa voiture. Mais il remontait vers le nord du comté. Après une nuit tranquille à l'auberge, petit bonhomme quitta Dewigovna dès la pointe du jour et s'engagea à travers le défilé des Bogorag. La journée fut fatigante. Le vent soufflait avec rage, s'engouffrant entre les talus boisés. On eût dit qu'il venait du sud-ouest, bien qu'il suivît les détours du défilé, quelle que fût leur orientation. Petit bonhomme le trouvait toujours debout, à lui, sans avoir, comme un navire, la ressource de courir débordé. Il fallait marcher contre la rafale, perdre parfois 5 ou 6 pas sur 12, céder des broussailles agrafées au roc, ramper au tournant de certains angles, enfin s'éreinter beaucoup pour n'avancer que peu de chemin. En vérité, une charrette, un jaunting car, lui eût rendu un grand service. Il n'en rencontrait point. Cette portion des Bogorag est à peine fréquentée. On peut gagner les villages du pays sans se risquer dans ce dédale. De passant, petit bonhomme n'en vit guère, et encore allait-il dans une direction inverse. Notre jeune garçon et son chien durent, à maintes reprises, s'étendre le long des buissons, au pied des arbres, pour prendre quelque repos. Pendant l'après-midi, en marchant d'un pas plus rapide, ils franchirent le point maximum d'altitude de la région. À relever le parcours sur une carte, le compas n'eût pas donné plus de 4 à 5 milles. Pénible étape, mais le plus rude était accompli, et en 2 heures, l'extrémité orientale du défilé serait atteinte. Il eût été imprudent, peut-être, de se hasarder après le coucher du soleil. Entre ces hauts talus, la nuit tombe rapidement. L'obscurité fut profonde dès 6 heures du soir. Mieux valait s'arrêter sur place, quoiqu'il n'y eût là ni ferme ni auberge. C'était un lieu très solitaire, un encaissement de la route, et petit bonhomme ne se sentait pas trop rassuré. Heureusement, Burke était un gardien vigilant et fidèle, et son maître pouvait se fier à lui. Cette nuit-là, il n'eut pour tout abri qu'une étroite anfractuosité, creusée dans la paroi rocheuse du talus, et sur laquelle retombait un rideau de pariétaire. Il s'y glissa, il s'allongea sur un matelas de terre molle et sèche. Burke vint se coucher à ses pieds, et tous deux s'endormirent à la grâce de Dieu. le lendemain, on reprit sa course au petit jour. Temps incertain, humide et froid. Encore une étape de 15 miles, et Cork apparaîtrait à l'horizon. À 8 heures, les défilés des monts Bograg furent franchis. La pente s'accusait. On allait vite, mais on avait faim. Le bissac commençait à sonner le vide. Birk trottinait de droite et de gauche, le nez à terre, quêtant sa nourriture. Puis il revenait et semblait dire à son maître « Est-ce qu'on ne déjeune pas ce matin ?»« Bientôt !» lui répondait petit bonhomme. En effet, vers 10 heures, tous deux faisaient halte au hameau de Dimmil House. C'est un endroit où la bourse du jeune voyageur s'allégea d'un shilling dans une modeste auberge qui lui offrit le menu ordinaire des Irlandais. Les pommes de terre, le lard et un gros morceau de ce fromage rouge appelé cheddar. Burke, lui, eut une bonne pâtée trempée de bouillon. Après le repas, le repos. Et après le repos, reprise du voyage. Territoire toujours accidenté, cultivé de part et d'autre. Ça et là, des champs où le paysan achevait, tardive sous ce climat, la moisson des orges et des seigles. Petit bonhomme ne se trouvait plus seul sur la route. Il se croisait avec les gens de la campagne auxquels il souhaitait le bonjour et qui le lui rendaient. Peu ou point d'enfants. Nous entendons de ceux qui n'ont pour toute occupation que de courir derrière les voitures, en mendiant. Cela tenait à ce que les touristes s'aventurent rarement en cette portion du comté et qu'il n'y aurait aucun profit à étendre la main. Il est vrai, si quelque gamin fût venu demander l'aumône à petit bonhomme, il en aurait obtenu un ou deux coppers. Le cas ne se présenta pas. Vers 3 heures de l'après-midi, on atteignit le point où la route commence à longer une rivière, ou plutôt un rio, sur une longueur de 7 à 8 miles. C'était la Dripsay, un affluent de la Lee, laquelle va se perdre dans une des extrêmes baies du sud-ouest. S'il voulait ne point coucher la nuit prochaine à la Belle Étoile, il fallait que petit bonhomme poussât son étape jusqu'au bourg de Woodside, à 3 ou 4 miles de Cork. Une fameuse étape à enlever avant la nuit. Cela ne lui parut pas impossible, et Burke avait l'air d'être de cet avis. « Allons, se dit-il, un dernier coup de collier. J'aurai le temps de me reposer là-bas. » « Le temps, oui. Ce n'est jamais le temps qui lui manquerait. Ce serait l'argent. » « Bah, de quoi s'inquiétait-il ? Il possédait 4 livres en bel or, sans compter ce qui lui restait de pence. Avec un pareil pécule, on va des semaines et des semaines. Cela fait bien des jours. En route donc, et allonge les jambes, mon garçon. Le ciel est couvert, le vent accalmie. S'il se met à pleuvoir, n'avoir d'autre ressource que de se blottir sous quelques meules. Ce n'est pas pour vous réjouir, alors qu'il y a de bons coins à vous attendre dans une des auberges de Woodside. Petit bonhomme et Burke atterrent le pas. Et un peu avant 6 heures du soir, il n'était plus qu'à 3 miles de la bourgade, lorsque Burke, s'arrêtant, fit entendre un singulier grognement. Petit bonhomme s'arrêta aussi et regarda le long de la route. Il ne vit rien. « Qu'as-tu, Burke ?» Burke aboya de nouveau. Puis, s'élançant à droite, courut du côté de la rivière, dont la berge n'était distante que d'une 20aine de pas. « Il a soif, sans doute, » pensa petit bonhomme. Et, ma foi, il me donne l'envie de boire. » Il se dirigeait vers la Dripsay lorsque le chien, poussant un aboiement plus aigu, se précipita dans le courant. Petit bonhomme, très surpris, eut atteint la berge en quelques bonds, et il allait rappeler son chien. Il y avait là un corps entraîné par le courant rapide, le corps d'un enfant. Le chien venait de le saisir par ses habits, ou plutôt ses haillons. Mais la Dripsay est pleine de remous qui rendent son cours très dangereux. Burke essayait de revenir à la berge. C'est à peine s'il gagnait, tandis que l'enfant se raccrochait convulsivement à sa fourrure. Petit bonhomme savait nager. On se souvient que Grip le lui avait enseigné. Il n'hésita pas, et il commençait à se débarrasser de sa veste lorsque, dans un dernier effort, Burke parvint à reprendre pied sur la berge. Petit bonhomme n'eut plus qu'à se baisser, à saisir l'enfant par ses vêtements, à le déposer en lieu sûr, tandis que le chien se secouait en aboyant. Cet enfant était un garçon de 6 à 7 ans au plus. Les yeux fermés, la tête ballottante, il avait perdu connaissance. Quel fut l'étonnement du petit bonhomme lorsqu'il eut écarté de sa figure sa chevelure toute mouillée. C'était le gamin que le comte Alston, 2 semaines avant, n'avait pas craint de frapper d'un coup de fouet sur la route de Tweddingold Castle. Ce qui avait attiré au jeune garçon de mauvais compliments pour son intervention charitable. Depuis 15 jours, ce pauvre petit, continuant d'aller devant lui, vaguait sur les routes. Dans l'après-midi, il était arrivé en cet endroit au bord de la Dripsey. Il avait voulu se désaltérer. Sans doute, le pied lui avait glissé. Il était tombé dans le courant. Et faute de Burke, entraîné par son instinct de sauveteur, il n'aurait pas tardé à disparaître au milieu des remous. Il s'agissait de le rappeler à la vie. Et c'est à cela que Petit Bonhomme employa tous ses soins. Malheureuse et pitoyable créature! Sa figure allongée, son corps maigre et décharné, disaient tout ce qu'il avait souffert. La fatigue, le froid, la faim. En le tâtant de la main, on sentait que son ventre était flasque comme un sac vidé. Par quel moyen lui faire reprendre connaissance? Ah, en le débarrassant de l'eau qu'il avait avalée, en opérant des pressions sur son estomac, en lui insufflant de l'air par la bouche. Oui, cela vint à l'esprit du petit bonhomme. Quelques instants après, l'enfant respirait, il ouvrait les yeux, et ses lèvres laissaient échapper ces mots. « J'ai faim. J'ai faim. I'm hungry. » C'est le cri de l'Irlandais, le cri de toute son existence, le dernier qu'il jette au moment de mourir. Petit bonhomme possédait encore quelques provisions. D'un peu de pain et de lard, il fit 2 ou 3 bouchées. Il les introduisit entre les lèvres de l'enfant et celui-ci les avala goulûment. Il fallut le modérer. Il se fut étouffé. Ces choses entraient en lui comme l'air dans une bouteille où l'on aurait fait le vide. Alors, se redressant, il sentit ses forces lui revenir. Ses regards se fixèrent sur Petit Bonhomme. Il hésita, puis, le reconnaissant, « Toi ? Toi ? » murmura-t-il. « Oui, tu te rappelles ? Sur la route, je ne sais plus quand. Moi, je le sais, mon boy. Oh, ne m'abandonne pas. Non, non, je te reconduirai. Où allais-tu ?
Devant, devant moi.
Où demeures-tu ?
Je ne sais pas. Nulle part.
Comment es-tu tombé dans la rivière ? En voulant boire, sans doute ?
Non.
Tu auras glissé ?
Non. Je suis tombée exprès.
Exprès ?
Oui, oui, maintenant je ne veux plus, si tu restes avec moi.
Je resterai, je resterai.
Et Petit Bonhomme eut des larmes plein les yeux. À 7 ans, cette affreuse idée de mourir, le désespoir menant ce boy à la mort, le désespoir qui vient du dénuement, de l'abandon, de la faim. L'enfant avait refermé ses paupières. Petit Bonhomme se dit qu'il ne devait pas le presser de questions. Ce serait pour plus tard. Son histoire, il la connaissait d'ailleurs. C'était celle de tous ces pauvres êtres. C'était la sienne. À lui, du moins, doué d'une énergie peu commune, la pensée n'était jamais venue d'en finir ainsi avec ses misères. Il convenait d'aviser, cependant. L'enfant n'était pas en état de faire quelques milles pour atteindre Woodside. Petit Bonhomme n'aurait pu le porter jusque-là. En outre, la nuit s'approchait, et l'essentiel était de trouver un abri. Aux environs, on ne voyait ni une auberge, ni une ferme. D'un côté de la route, la Dripsey, longue, sans un bateau, sans une barque. De l'autre, des bois, qui s'étendaient à perte de vue sur la gauche. C'était donc en cet endroit qu'il fallait passer la nuit au pied d'un arbre, sur une litière d'herbe, près d'un feu de bois mort, si cela était nécessaire. Le soleil levé, lorsque les forces seraient revenues à l'enfant, tous deux ne seraient pas gênés de gagner Woodside et peut-être Cork. On avait suffisamment de quoi souper ce soir-là, tout en gardant quelques morceaux pour le déjeuner du lendemain. Petit bonhomme prit entre ses bras le boy que la fatigue avait endormi. Suivi de Burke, il traversa la route et s'enfonça d'une vingtaine de pas sous le bois, assez obscur déjà, entre ces gros hêtres séculaires dont on compte des milliers dans cette partie de l'Irlande. Quelle satisfaction il éprouva de rencontrer un de ces larges troncs à demi courbés, creusés par la vieillesse. C'était une sorte de berceau, de nid, si l'on veut, où il pourrait déposer son petit oiseau. Ce trou était rempli d'une poussière molle comme de la sciure, et en y ajoutant une brassée d'herbe, cela ferait un lit très convenable. Et même, il ne serait pas impossible de s'y blottir à deux, d'y reposer plus chaudement. Tout en dormant, l'enfant sentirait qu'il n'était plus seul. Un instant encore, et il était installé dans ce creux. Ses yeux ne se rouvrirent même pas, mais il respirait doucement et ne tarda pas à tomber dans un profond sommeil. Petit bonhomme s'occupa alors de faire sécher les vêtements que son protégé, le protégé de petit bonhomme, devrait reprendre le lendemain. Ayant allumé un feu de bois sec, il tordit ses haillons, il les exposa à la flamme pétillante, puis il les étendit sur une basse branche du hêtre. Le moment était venu de souper, de pain, de pommes de terre, de cheddar. Le chien ne fut point oublié, et bien que sa part n'eût pas été très grosse, il ne se plaignait point. Son jeune maître alla s'étendre dans le creux du hêtre, et les bras autour du petit, il finit par succomber au sommeil, tandis que Burke veillait sur le couple endormi. Le lendemain, 18 septembre, l'enfant se réveilla le premier, tout étonné d'être couché dans un si bon lit. Burke lui adressa un jappement protecteur. « Dame, est-ce qu'il n'était pas pour quelque chose dans son sauvetage ?» Petit bonhomme ouvrit les yeux presque aussitôt, et le boy se jeta à son cou en l'embrassant. « Comment te nommes-tu ? » lui demanda-t-il. « Petit bonhomme, et toi ?»« Bob. » « Eh bien, Bob, viens t'habiller. » Bob ne se le fit point dire deux fois. Tout vaillant, à peine se souvenait-il qu'il s'était jeté la veille dans la rivière. Est-ce qu'il n'avait pas une famille? Maintenant, un père qui ne l'abandonnerait pas, ou du moins un grand frère qu'il avait déjà consolé en lui donnant une poignée de coppers sur la route de Trelinger Castle? Il se laissait aller à cette confiance du jeune âge, nuancé de cette familiarité naturelle qui distingue les enfants irlandais. D'autre part, il semblait à petit bonhomme que la rencontre de Bob lui avait créé de nouveaux devoirs, ceux de la paternité. Et si Bob fut content, lorsqu'il eut une chemise blanche sous ses vêtements bien secs, et quels yeux il ouvrit, autant que la bouche, devant une miche de pain, un morceau de fromage et une grosse pomme de terre qui venait d'être réchauffée sous les cendres du foyer. Ce déjeuner à deux, ce fut peut-être le meilleur repas qu'il eût fait depuis sa naissance. Sa naissance, il n'avait pas connu son père, mais plus favorisé que petit bonhomme, il avait connu sa mère, morte de misère. Il y avait 2 ans, 3 ans, Bob ne pouvait dire au juste. Depuis, il avait été recueilli dans l'asile d'une ville, pas trop grande, dont il ignorait le nom. Plus tard, l'argent manquant, on avait fermé l'asile, et Bob s'était trouvé dans la rue, sans savoir pourquoi. Il ne savait rien, Bob, avec les autres enfants, la plupart n'ayant pas de famille. Alors il avait vécu sur les routes, couchant n'importe où, mangeant quand il pouvait. Il faisait ce qu'il pouvait, Bob. Jusqu'au jour où, après un jeûne de 48 heures, la pensée lui vint de mourir. Telle était son histoire, qu'il raconta en mordant à même sa grosse pomme de terre. Et cette histoire-là, ce n'était pas nouveau pour un ancien pensionnaire de la Harde, réduit à l'état de manivelle chez Tom Peep, un élève de la Wagged School. Puis, Au milieu de son bavardage, voici que la figure intelligente de Bob changea soudain. Ses yeux si vifs s'éteignirent, il devint tout pâle. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda petit bonhomme. « Tu ne vas pas me laisser seul ? » murmura-t-il. C'était là sa grande crainte. « Non, Bob. »«
Alors, tu m'emmènes ? » ?»«
Oui. Où je vais ?»
Où ? Bob ne tenait même pas à le savoir, pourvu que petit bonhomme l'emmenât avec lui.
« Mais ta maman, ton papa, à toi ?»«
Je n'en ai pas. »«
Ah ! » fit Bob, « je t'aimerais bien. »«
Moi aussi, mon boy, et nous tâcherons de nous arranger tous les deux. »
« Oh, tu verras comme je cours après les voitures !» s'écria Bob. « Et les copères qu'on me jettera, je te les donnerai !»
Ce gamin n'avait jamais fait d'autre métier.
« Non, Bob, il ne faudra plus courir après les voitures. »
« Pourquoi ?»«
Parce que ce n'est pas bien de mendier. »«
Hein ?»
fit Bob qui resta songeur.
« Dis-moi, as-tu de bonnes jambes ?»«
Oui, mais pas grandes encore. »«
Eh bien, nous allons faire une longue trotte aujourd'hui pour coucher ce soir à Cork. »«
À Cork ?»«
Oui, une belle ville de là-bas, avec des bateaux. »«
Des bateaux, je sais. »«
Et puis... » « La mer, as-tu vu la mer ?»«
Non. »«
Tu la verras. Ça s'étend loin, loin. En route. »
Et les voilà partis, précédés de Birk, qui gambadait en balançant sa queue. 2 miles plus loin, la route abandonne les berges de la Dripsey et longe celle de la Lee, qui va se jeter au fond de la baie de Cork. On rencontra plusieurs voitures de touristes qui se dirigeaient vers la partie montagneuse du comté. Et alors Bob, emporté par l'habitude, de courir en criant « Copper, copper !» Petit bonhomme le rattrapa. « Je t'ai dit de ne plus faire cela !» lui répéta-t-il.
« Mais pourquoi ?»«
Parce que c'est très mal de demander l'aumône. »«
Même quand c'est pour manger ?»
Petit bonhomme ne répondit pas. Et Bob fut très inquiet de son déjeuner, jusqu'au moment où il se vit attablé dans une auberge de la route. Et, ma foi, pour 6 pence, tous 3 se régalèrent, le grand frère, le petit frère et le chien. Bob ne pouvait en croire ses yeux. Petit bonhomme avait une bourse, et cette bourse contenait des shillings, et il en restait encore lorsque l'écho eut été payé à l'aubergiste.
« Ces belles pièces-là, dit-il, d'où qu'elles viennent ?»«
Je les ai gagnées, Bob, en travaillant. »
« En travaillant ? Moi aussi, je voudrais bien travailler, mais je ne sais pas. »«
Je t'apprendrai, Bob. »«
Tout de suite ?»«
Non, quand nous serons là-bas. » Si l'on voulait arriver le soir même, il ne fallait pas perdre un instant. Petit bonhomme et Bob se remirent en marche et ils firent telle diligence qu'ils avaient atteint Woodside entre 4 et 5 heures du soir. Au lieu de s'arrêter dans une auberge de cette bourgade, puisqu'il n'y avait plus que 3 miles, mieux valait pousser jusqu'à Cork.
« Tu n'es pas trop fatigué, mon boy ?» demanda petit bonhomme.
« Non, ça va, » répondit l'enfant. Et après un nouveau repas qui leur redonna des forces, tous les deux continuèrent l'étape. À 6 heures, ils atteignaient à l'entrée de l'un des faubourgs de la ville. Un hôtelier leur offrit un lit, et l'un dans les bras de l'autre, ils s'endormirent. Chapitre 7. 7 mois à Cork. Était-ce à Cork, dans cette capitale de la province de Munster, que petit bonhomme commencerait sa fortune? Placée au 3e rang en Irlande, cette ville est commerçante. Elle est industrielle, elle est littéraire aussi. Or, lettres, industrie, commerce, en quoi ces 3 champs ouverts à l'activité humaine pourraient-ils servir au début d'un garçon de 11 ans? N'était-il arrivé là que pour grossir le nombre de ces misérables qui fourmillent au milieu des cités maritimes du Royaume-Uni? Petit bonhomme avait voulu venir à Cork. Il était à Cork, dans des conditions, il est vrai, peu favorables à la réalisation de ses projets d'avenir. Autrefois, lorsqu'il rôdait sur les plages de Galway, Lorsque Pat McCarthy lui déroulait le récit de ses voyages, sa jeune imagination s'enflammait pour les choses du commerce. Acheter des cargaisons dans les autres pays, les revendre dans le sien, quel rêve! Mais il avait réfléchi depuis son départ de Twillingar Castle. Pour que l'enfant de la maison de charité de Donegal pût devenir le commandant d'un bon et solide navire, naviguant d'un continent à l'autre, il était nécessaire qu'il s'engageât comme mousse, à bord de clippers ou des steamers. Puis, avec le temps, qu'il fût novice, matelot, maître, lieutenant, capitaine au long cours. Et maintenant, ayant Bob et Burke à sa charge, pouvait-il songer à un embarquement? S'il les abandonnait tous les deux, que deviendrait-il? Puisque, avec l'aide de Burke s'entend, il avait sauvé la vie au pauvre Bob, c'était son devoir de la lui assurer. Le lendemain, petit bonhomme fit prix avec l'aubergiste pour la location d'un galetas n'ayant qu'un unique matelas d'herbe sèche. Grand pas en avant. Si notre héros n'était pas encore dans ses meubles, il allait être en garni. Prix du galetas, 2 pence, qui devrait être payé chaque matin. Quant au repas, Bob, Burke et lui les prendraient où cela se trouverait. La cuisine du hasard, le restaurant de rencontre. Tous trois sortirent au moment où le soleil commençait à dissiper les brumes de l'horizon. « Et les bateaux ?» dit Bob. « Quels bateaux ?»« Ce que tu m'as promis. »« Attends, que nous soyons sur le bord de la rivière. » Et ils s'en allèrent à la recherche des bateaux le long d'un faubourg assez étendu, assez misérable aussi. Chez un boulanger, on acheta une forte miche. En ce qui concerne Burke, inutile de s'en inquiéter, il avait déjà rencontré son affaire en fouillant l'état de la rue. Au quai de l'Ali, dont un double bras en serre Cork, on voyait quelques barques, mais point de bateaux. De ces bateaux capables de traverser le canal Saint-Georges ou la mer d'Irlande, puis l'océan Atlantique. En effet, le véritable port est en aval, plus spécialement à Queenstown, l'ancienne Cowes, située sur la baie de Cork, et de rapides ferry boats permettent de descendre l'estuaire de la Lee jusqu'à la mer. Petit bonhomme, tenant Bob par la main, entra dans la ville proprement dite. Bâtie sur la principale île de la rivière, elle se rattache à ses côtes au moyen de plusieurs ponts. D'autres îles, en dessus et en dessous, ont été transformées en promenades et en jardins. Des promenades très ombreuses, des jardins très verdoyants. Divers monuments se dressent, ça et là, une cathédrale sans style, dont la tour est fort ancienne, Sainte-Marie, Saint-Patrick. Les églises ne manquent point aux villes d'Irlande, non plus que les asiles, les hospices et les workhouses. Au pays des Reins, il y a toujours nombre de fidèles, nombre de pauvres aussi. Pour ce qui est de jamais rentrer dans une de ces maisons de charité, rien qu'à cette pensée, petit bonhomme se sentait pris de dégoût et d'épouvante. Comme il eût préféré le Queen's College, qui est une magnifique construction. Mais avant d'y être reçu, il faut savoir autre chose que lire, écrire et compter. Il y avait un certain mouvement dans les rues de la ville, ce mouvement des gens qui travaillent de bonne heure, les magasins qui s'ouvrent, les portes des maisons d'où sortent les servantes, le balai à la main ou le panier au bras, les charrettes qui circulent, les revendeurs qui promènent leurs étalages ambulants, les marchés où s'entassent les approvisionnements pour une population de 100 000 âmes, y compris celle de Queenstown. En passant par le quartier négociant et industriel, on voyait des fabriques de cuir, de papier, de draps, des distilleries, des brasseries, etc. Rien encore de très maritime. Après une agréable promenade, petit bonhomme et Bob vinrent se reposer sur un banc de pierre à l'angle d'un édifice d'aspect imposant. En cet endroit, on sentait l'odeur du commerce. Les viandes salées, les excitantes épices, les denrées coloniales, et aussi le beurre, dont Cork est le plus actif marché, non seulement du Royaume-Uni, mais de toute l'Europe. Petit bonhomme respirait à plein poumon ce mélange de molécules sui generis. L'édifice s'élevait au point de jonction des bras de l'allée qui n'en forme plus qu'un seul en se déroulant vers la baie. C'était la douane, avec son agitation incessante, son va-et-vient de toutes les heures. À partir de ce confluent, plus de pont sur la rivière, un lit dégagé de toute entrave, la liberté de communication entre Queenstown et Cork. Alors, de même qu'il avait demandé « les bateaux », Bob de s'écrier « et la mer ?» Oui, la mer que son grand frère lui avait promise. « La mer, c'est plus loin, Bob. Nous finirons par y arriver, je pense. » Et, de fait, il n'y avait qu'à prendre passage sur l'un de ces ferryboats qui font le service de l'estuaire. Cela épargnerait du temps et de la fatigue. Quant au prix des deux places, ce n'était pas cher. Quelques pence seulement. On pouvait se permettre cela le premier jour. Et d'ailleurs, Burke n'aurait rien à payer. Quelle joie ressentit petit bonhomme à dévaler le cours de l'allée sur ce bateau filant à toute vitesse. Il revint alors par la pensée à la noble famille des Piborn visitant l'île de Valencia, à la mer déserte de là-bas. Ici, spectacle très différent. On croisait de nombreuses embarcations de tout tonnage. Sur les rives se succédaient des magasins spacieux, des établissements de bains, des chantiers de construction, que regardaient les deux enfants placés à l'avant du ferryboat. Ils arrivèrent enfin à Queenstown, un beau port long de 8 à 9 miles du nord au sud et large d'une demi-douzaine de l'est à l'ouest. « Est-ce que c'est la mer ?» demanda Bob. « Non, un morceau à peine, » répondit petit bonhomme. « C'est bien plus grand ?»« Oui, on ne voit pas où ça finit. » Mais le ferryboat n'allant pas au-delà de Queenstown, Bob ne vit pas ce qu'il tenait tant à voir. Par exemple, il y avait par centaines des navires de toutes sortes, ceux de long cours et ceux de cabotage. Cela s'explique, puisque Queenstown est à la fois un port de relâche et un port d'approvisionnement. Les grands transatlantiques, des lignes anglaises ou américaines, parties des États-Unis, y déposent leurs dépêches, qui gagnent ainsi une demi-journée. De là, des steamers se dirigent vers Londres, Liverpool, Cardiff, Newcastle, Glasgow, Milford et autres ports du Royaume-Uni. Bref, un mouvement maritime qui se chiffre par plus de 1 200 000 tonnes. Bob demandait des bateaux. Eh bien, il n'aurait jamais imaginé qu'il pût en exister tant que cela. Petit bonhomme non plus. Les uns amarrés ou mouillés, les autres entrant ou sortant, les uns arrivant des pays d'outre-mer, les autres en partance pour les régions lointaines. Ceux-ci avec le phare élégant de leur voilure gonflée à la brise, ceux-là troublant de leurs puissantes hélices les eaux de la baie de Cork. Et tandis que Bob contemplait de ses yeux écarquillés toute cette animation de la baie, petit bonhomme songeait, lui, à l'agitation commerciale qui se développait à ses regards, aux riches cargaisons arrimées dans les cales de navires, balles de coton, balles de laine, tonneaux de vin, pipes de 3-6, sacs de sucre, boucaux de café, et il se disait que cela se vendait, que cela s'achetait, que c'était les affaires. Cependant, à quoi leur eût servi de s'attarder sur les quais de Queenstown où tant de misère se mêle, hélas, à tant de richesses. Ça et là, il y avait un grand nombre de ces meudlarks, petits pauvres et vieilles femmes, occupées à fouiller les vases découvertes à marée basse, et au coin des bornes, des malheureux disputant aux chiens quelques détritus. Tous deux reprirent le ferryboat et revinrent à Cork. La promenade avait été amusante, sans doute, mais elle avait coûté gros. Le lendemain, il faudrait aviser aux moyens de gagner plus qu'on ne dépenserait. Sinon, les précieuses guinées se fondraient comme un morceau de glace dans la main qui le serre. En attendant, le mieux était de dormir sur le grabat de l'auberge, et c'est ce qui eut lieu. Il n'y a pas à reprendre par le détail ce que fut l'existence de petit bonhomme, doublé de son ami Bob, pendant les 6 mois qui suivirent son arrivée à Cork. L'hiver, long et rude, eût peut-être été funeste à des enfants inhabitués à souffrir de la faim et du froid. La nécessité fit un homme de ce garçonnet de 11 ans. Jadis, chez la Harde, s'il avait vécu de rien, actuellement, s'il vivait de peu, vivère et parvo, il parvint à vivre, et Bob avec lui. Plus d'une fois, le soir venu, ils n'eurent à partager qu'un œuf, où l'un après l'autre trempait sa mouillette. Et cependant, ils ne demandèrent jamais l'aumône. Bob avait compris qu'il y avait honte à mendier. Ils étaient à l'affût de commissions à faire, de voitures à chercher aux stations, des bagages, un peu lourds parfois, que les voyageurs leur donnaient à porter au sortir de la gare, etc. Petit bonhomme entendait ménager le plus possible ce qui lui restait de ses gages de Tredinger Castle. Or, dès les premiers jours de son arrivée à Cork, il avait dû en sacrifier une partie. N'avait-il pas fallu acheter des vêtements et des souliers à Bob? Et quelle joie celui-ci éprouva à revêtir un complet de 13 shillings, tout neuf! Il ne pouvait décemment aller en haillons, nu-tête et nu-pied, lorsque son grand frère était assez proprement vêtu. Cette dépense une fois faite, on s'ingénierait à ne plus vivre que des quelques pence gagnés quotidiennement. Et l'estomac vide, comme ils enviaient Burke, qui, du moins, finissait par découvrir sa nourriture à droite et à gauche. « J'aurais voulu être chien, » disait Bob.
« Tu n'es pas dégoûté, » répondait Petit Bonhomme.
Quant au loyer du galetas de l'auberge, jamais on ne fut en retard. Aussi, le propriétaire, qui s'intéressait à ses deux enfants, les gratifiait-il de loin en loin d'une bonne soupe chaude. Décidément, il leur était bien permis de l'accepter sans rougir. Si Petit Bonhomme tenait tant à conserver les 2 livres qui lui restaient en poche après les premiers achats, c'est qu'il attendait toujours l'occasion de les « mettre dans les affaires ». C'était la formule dont il se servait. Bob ouvrait de grands yeux lorsqu'il l'entendait s'exprimer de la sorte. Alors Petit Bonhomme lui expliquait que cela consisterait à acheter des choses et à les revendre plus cher qu'on ne les avait achetées. « Des choses qui se mangent ?» demanda Bob. « Des choses qui se mangent ou des choses qui ne se mangent pas, c'est selon. « J'aimerais mieux des choses qui se mangent. »« Pourquoi, Bob ?»« Parce que si on ne les vendait pas, du moins on pourrait se nourrir avec. »« Eh, Bob, tu n'entends déjà pas si mal le commerce. »« L'important est de bien choisir ce qu'on achète. » Et on finit toujours par vendre avec profit. C'est à cela que pensait sans cesse notre héros. Et il fit quelques tentatives de nature à l'encourager. Le papier à lettres, les crayons, les allumettes, s'il essaya de ce genre de négoce, presque infructueusement, à cause de la concurrence, il réussit mieux avec la vente des journaux, en se tenant aux abords de la gare. Bob et lui étaient si intéressants, ils avaient l'air si honnêtes, ils offraient la marchandise avec tant de gentillesse qu'on ne résistait guère à la tentation de leur acheter les feuilles courantes, des livrets de chemin de fer, des horaires, divers petits livres à bon marché. Un mois après avoir entrepris ce commerce, Petit Bonhomme et Bob possédaient chacun un inventaire sur lequel journaux et brochures étaient rangés en ordre. Les titres bien apparents, les illustrations bien en vue, et toujours de la monnaie pour rendre aux acheteurs. Il va sans dire que Burke ne quittait jamais son maître. Est-ce donc qu'il se considérait comme leur associé, ou tout au moins leur commis? De temps à autre, un journal entre les dents, il courait vers les passants et se présentait en faisant des gambades si insinuantes, si démonstratives. Bientôt même, on le vit avec une corbeille, placée sur son dos, dans laquelle les publications étaient soigneusement disposées et qu'une toile cirée pouvait recouvrir en cas de pluie. C'était là une idée de Petit Bonhomme, et point mauvaise, en somme. Rien de mieux imaginé pour attirer le chaland que de montrer Burke, si sérieux, si pénétré de l'importance de ses fonctions. Mais alors, adieu les courses folles! les jeux avec les chiens du voisinage. Lorsque ceux-ci s'approchaient de l'intelligent animal, quel sourd grognement les accueillait! Quel croc apparaissait sous les lèvres relevées du colporteur à quatre pattes! On ne parlait que du chien du petit marchand aux alentours de la gare. On traitait directement avec lui. L'acheteur prenait dans la corbeille le journal à sa convenance et en déposait le prix dans une tirelire que Birk portait au cou. Encouragé par le succès, Petit Bonhomme songea à étendre ses affaires. Au débit des journaux et des brochures, il ajouta des boîtes d'allumettes, des paquets de tabac, des cigares à bas prix, etc. Il résulte de là que Birk eut une véritable boutique sur les reins. En de certains jours, il réalisait une recette supérieure à celle de son maître, qui ne s'en montrait pas jaloux, au contraire. Et Birk était récompensé de quelques bons morceaux accompagnés d'une bonne caresse. Ils faisaient excellent ménage, ces trois êtres. Et puissent toutes les familles se sentir aussi unies que l'étaient ce chien et ses deux enfants. Petit Bonhomme n'avait pas tardé à reconnaître chez Bob une intelligence vive et aiguisée. Ce boy, de 7 ans et demi, d'un esprit moins pratique que son aîné, mais d'humeur plus joyeuse, laissait volontiers déborder sa vivacité naturelle. Comme il ne savait ni lire, ni écrire, ni compter, il va de soi que Petit Bonhomme s'était imposé la tâche de lui apprendre, d'abord l'alphabet. Ne convenait-il pas qu'il pût déchiffrer les titres des journaux qu'on lui demandait? Il y prit goût et fit de rapides progrès, tant son professeur montrait de patience et lui d'application. Après les grosses lettres des titres, il passa au texte plus fin des colonnes. Puis il se mit à l'écriture et au calcul, qui lui donnèrent un peu plus de mal. Et pourtant, dans quelle mesure il profita! Son imagination aidant, il se voyait employé de librairie, dirigeant le magasin de Petit Bonhomme, sur la plus belle rue de Cork, avec un étalage superbe et une magnifique enseigne de « bookseller ». Il faut dire qu'il touchait déjà un léger tant soit pourcent sur la vente, et au fond de sa poche remuait quelques pence bien gagnés. Aussi ne refusait-il pas, à l'occasion, de faire l'aumône d'un copeur au petit qui lui tendait la main. Ne se rappelait-il pas le temps où il courait sur les grandes routes, derrière les voitures? Qu'on ne s'étonne pas si Petit Bonhomme, grâce à un instinct particulier, avait tenu sa comptabilité quotidienne d'une façon très régulière. Tant pour le galta à l'auberge, tant pour les repas, tant pour le blanchissage, le feu et la lumière. Chaque matin, il inscrivait sur son carnet la somme destinée à l'achat des marchandises et, le soir, il établissait la balance entre les dépenses et les recettes. Il savait acheter, il savait vendre et c'était tout profit. Si bien qu'à la fin de cette année 1882, il aurait eu une dizaine de livres en caisse, s'il eût possédé une caisse. Il est vrai, un brave homme d'éditeur, chez lequel il se fournissait le plus ordinairement, avait mis la sienne à sa disposition. Et c'était là qu'étaient déposés chaque semaine les bénéfices hebdomadaires qui produisaient même un léger intérêt. Nous ne cacherons pas que devant ce succès obtenu à force d'économie et d'intelligence, une ambition venait à notre jeune garçon, l'ambition réfléchie et légitime d'augmenter ses affaires. Peut-être y serait-il parvenu avec le temps, en se fixant à Cork d'une façon définitive. Mais il se disait, non sans raison, qu'une ville plus importante, Dublin par exemple, la capitale de l'Irlande, offrirait de bien autres ressources. Cork, on le sait, n'est qu'un port de passage où le commerce est relativement restreint. Tandis que Dublin, c'était si éloigné, Dublin. Cependant, il ne serait pas impossible. Prends garde, petit bonhomme. Est-ce que ton esprit pratique aurait tendance à s'illusionner? Serais-tu capable d'abandonner la proie pour l'ombre, la réalité pour le rêve? Après tout, il n'est pas défendu à un enfant de rêver. L'hiver ne fut pas très rigoureux, ni dans les mois qui finirent l'année 1882, ni dans ceux qui inaugurèrent l'année 1883. Petit Bonhomme et Bob n'eurent point trop à souffrir de courir les rues du matin au soir. Et pourtant, de stationner sous la neige, au milieu des bourrasques, aux abords des places ou des carrefours, cela ne laisse pas d'être dur. Bah, tous deux étaient, depuis leur bas âge, acclimatés aux intempéries. Et s'ils furent parfois très éprouvés, du moins ne tombèrent-ils jamais malades, tout en ne s'épargnant guère. Chaque jour, quel que fût l'état du ciel, ils quittaient leur gîte dès l'aube, laissant les derniers charbons brûler sur la grille du poêle, et ils couraient acheter pour vendre ensuite, sur le perron de la gare, au moment du départ et de l'arrivée des trains. Puis, à travers les divers quartiers, où Berg transportait leur étalage. Le dimanche seulement, lorsque chaume les villes, bourgades et villages du Royaume-Uni, ils s'accordaient quelques repos, réparant leurs vêtements, faisant leur ménage, rendant leur galetas aussi propre que possible, l'un mettant en ordre sa comptabilité, l'autre prenant ses leçons de lecture, d'écriture et de calcul. Ensuite, l'après-midi, accompagnés de Burke, ils allaient aux environs de Cork. Ils redescendaient la Lee jusqu'à Queenstown. Deux bons petits bourgeois qui se promènent après toute une semaine de travail. Un jour, ils se permirent de faire en bateau le tour de la baie. Et Bob, pour la première fois, put embrasser du regard la mer sans limite. « Et plus loin ? » demanda-t-il. « En continuant toujours d'aller sur l'eau, toujours, qu'est-ce qu'on trouverait ?»« Un grand pays, Bob. Plus grand que le nôtre ?»« Des milliers de fois, Bob. Et il faut à ces gros navires que tu vois, au moins 8 jours de traversée. » »« Et il y a des journaux dans ce pays-là ?» Des journaux, Bob? Oh, par centaines! Des journaux qui se vendent jusqu'à 6 pence. Tu es sûr? Très sûr. Même qu'il faudrait des mois et des mois pour les lire tout entier. Et Bob regardait avec admiration cet étonnant petit bonhomme, qui était capable d'affirmer une chose pareille. Quant au gros bâtiment, à ses steamers qui relâchaient habituellement à Queenstown, son plus vif désir eût été de s'élancer sur le pont, de grimper dans la mâture, tandis que petit bonhomme aurait préféré, sûrement, visiter la cale et la cargaison. Mais jusqu'alors, ni l'un ni l'autre n'avait osé embarquer sans l'autorisation du capitaine, un personnage dont il se faisait une idée. Quant à la demander, cela dépassait leur courage et de beaucoup. Songez donc, le maître après Dieu, comme l'avait entendu dire petit bonhomme, qu'il avait répété à Bob. Aussi, ce désir des deux enfants était-il encore à réaliser. Espérons qu'ils pourront le satisfaire un jour, ainsi que tant d'autres qui s'éveillaient en eux. Chapitre 8. Premier chauffeur. Ainsi s'acheva l'année 1882, qui fut marquée à l'actif et au passif de petit bonhomme, par tant d'alternatives de bonne et de mauvaise fortune. La dispersion de la famille McCarthy, dont il n'entendait plus parler, les 3 mois passés à Trelinger Castle, la rencontre de Bob, l'installation à Cork, la prospérité de ses affaires. Pendant les premiers mois de l'année nouvelle, si le commerce ne se ralentit pas, il semblait qu'il eût atteint son maximum. Comprenant que cela n'avait aucune chance de s'accroître, petit bonhomme était-il toujours hanté de l'idée d'entreprendre quelque opération plus fructueuse? Pas à Cork, non, dans une ville importante de l'Irlande. Et sa pensée se dirigeait vers Dublin. Pourquoi une occasion ne se présenterait-elle pas? Janvier, février, mars s'écoulèrent. Les deux enfants vivaient en économisant penny sur penny. Par bonheur, leur petit pécule s'augmenta, grâce à une certaine vente qui procura en peu de temps un joli bénéfice. Il s'agissait d'une brochure politique relative à l'élection de M. Parnell, et dont petit bonhomme obtint le privilège exclusif dans les rues de Cork et de Queenstown. Voulait-on acheter cette brochure, il fallait s'adresser à lui seul, et Burke en eut des charges sur le dos. Ce fut un véritable succès. Et quand on arrêta les comptes au commencement d'avril, il y avait en caisse 30 livres, 18 shillings et 6 pence. Jamais les boys ne s'étaient vus si riches. Alors s'établirent de longs débats sur la question de louer une étroite boutique dans le voisinage de la gare. Ce serait si beau d'être chez soi. Ce diable de Bob, qui ne doutait de rien, y pensait. Voyez-vous ce magasin, son étalage de journaux et d'articles de librairie, avec un patron de 11 ans et un employé de 8, des patentés chez lesquels le collecteur serait venu toucher des taxes. Oui, c'était tentant. Et ses deux enfants, si dignes d'intérêt, auraient certainement trouvé quelques crédits. La clientèle ne leur aurait pas fait défaut. Aussi petit bonhomme réfléchissait-il aux aléas d'hiver, pesant le pour et le contre. Et puis, son idée était toujours de se transporter à Dublin, où l'attirait on ne sait quel pressentiment de sa destinée. Enfin, il hésitait. Il résistait aux instances de Bob, lorsqu'une circonstance se présenta qui allait décider de son avenir. On était au dimanche 8 avril, petit bonhomme et Bob avaient formé le projet de passer la journée à Queenstown. Le principal attrait de cette partie de plaisir devait être de déjeuner et de dîner dans un modeste cabaret de matelots. « On mangera du poisson ?» demanda Bob. « Oui, » répondit petit bonhomme, « et même du homard, ou à défaut, du crabe, si tu veux. »« Oh oui, je veux !» Les enfants mirent leurs plus beaux habits bien nettoyés. Ils chaussèrent leurs souliers bien cirés et les voilà partis à la pointe du jour avec Burke dûment brossé. Il faisait un superbe temps, un rayonnement de soleil printanier, une légère brise assez chaude. La descente de l'Ali à bord d'un ferryboat fut un enchantement. Il y avait des musiciens à bord, des virtuoses de la rue, dont la musique excita l'admiration de Bob. La journée s'annonçait d'une agréable façon, et ce serait délicieux si elle finissait de même. À peine débarqué sur le quai de Queenstown, petit bonhomme avisa une auberge à l'enseigne de Foldsiman, toute disposée, semblait-il, à les recevoir. À la porte, dans un baquet, une demi-douzaine de crustacés remuaient leurs pinces et leurs pattes en attendant l'heure du bouillon final, si quelque consommateur voulait y mettre le prix. D'une table placée près de la fenêtre, on ne perdrait pas de vue les navires amarrés aux estacades du port. Petit bonhomme et Bob allaient donc entrer dans ce lieu de délices, lorsque leur attention fut attirée par un grand bâtiment, arrivé de la veille, en relâche à Queenstown et qui procédait à sa toilette dominicale. C'était le Vulcan, un steamer de 800 à 900 tonneaux venant d'Amérique et devant repartir le lendemain pour Dublin. C'est du moins ce qu'un vieux matelot, coiffé d'un suroît jaunâtre, répondit aux questions qui lui furent posées. Or, tous deux examinaient ce navire, mouillé à une demi-encablure, lorsqu'un grand garçon, la figure en charbonnet, les mains noires, s'approcha du petit bonhomme, le regarda, ouvrit une large bouche, ferma les yeux, puis s'écria « Toi ? Toi ? C'est toi ?» Petit bonhomme demeura interloqué, et Bob ne le fut pas moins. Cet individu qui le tutoyait, et un nègre qui plus est, pas de doute, il y avait erreur. Mais voici que le prétendu nègre, tournant et retournant la tête, devint encore plus démonstratif. « C'est moi ! Tu ne me reconnais pas ? C'est moi, la Wagon School, Gwip !»« Gwip ? » répéta petit bonhomme. C'était Gwip, et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, échangeant leurs baisers avec une telle effusion que petit bonhomme en sortit noir comme un charbonnier. Quelle joie de se revoir ! L'ancien surveillant de la Wagon School était maintenant un gaillard de 20 ans, dégourdi, vigoureux, solidement campé, ne rappelant en rien le souffre-douleur des déguenillés de Galway, si ce n'est qu'il avait conservé sa bonne physionomie d'autrefois. « Gwip, Grip, c'est toi, c'est toi !» ne cessait de redire petit bonhomme. « Oui, moi, et qui ne t'ai jamais oublié, mon boy !»«
Et tu es matelot ?»«
Non, chauffeur à bord du Vulcan !»
Cette qualification de chauffeur fit sur Bob une impression considérable.
« Qu'est-ce que vous faites chauffer, monsieur ?»
demanda-t-il.
« La soupe ?»«
Non, ptio !» répondit Grip. « La chaudière qui fait marcher notre machine, qui fait marcher notre bateau !»
Et là-dessus, petit bonhomme présenta Bob à son ancien protecteur de la Rugged School.
« Une sorte de frère, dit-il, que j'ai rencontré sur la grande route, et qui te connaît bien, car je lui ai souvent raconté notre histoire. »
Ah, mon bon Grip, que tu dois avoir de choses à me dire. Depuis près de 6 ans que nous sommes séparés.
Et toi ? Répliqua le chauffeur.
Eh bien, viens, viens déjeuner avec nous, dans ce cabaret où nous allions entrer.
Ah non, dit Grip, ça sera vous qui déjeunerez avec moi. Mais auparavant, venez à bord.
À bord du Vulcan ?
Oui.
À bord, tous les deux ?
Bob et petit bonhomme ne pouvaient en croire Grip. C'est comme si on leur eût proposé de les mener au paradis.
« Et notre chien ?»«
Quel chien ?»«
Burke ?»«
C'te bête qui tourne autour de moi, c'est votre chien ?»«
Notre ami, Grip. Un ami, dans ton genre. »
Croyez que Grip fut flatté de la comparaison et que Burke reçut de sa part une amicale caresse.
« Mais le capitaine !» dit Bob, qui manifestait une hésitation bien naturelle.
« Le capitaine est à terre, et le second maître vous recevra comme des milords. »
Pour cela, Bob n'en doutait pas. En compagnie de Grip, un premier chauffeur, c'est quelqu'un.
« Et d'ailleurs, reprit Grip, il faut que je fasse un bout de toilette, que je me lave de la tête aux pieds, maintenant que mon service est terminé. »
« Ainsi, Grip, tu vas être libre toute la journée ?»«
Toute la journée !»
« Quelle excellente idée, Bob, nous avons eu de venir à Greenstone. »«
Je te crois, » dit Bob.
« Et puis, » ajouta Grip, « faut que tu te débarbouilles aussi, car je t'ai tout noirci, petit bonhomme. »«
Tu t'appelles toujours comme ça ?»«
Oui, Grip. »«
Je l'aime mieux. »«
Grip, je voudrais t'embrasser encore une fois. »«
Ne te gêne pas, mon boy, puisqu'on va se tremper le nez dans une baille. »«
Et moi ?» dit Bob.
« Toi de même !»
C'est ce qui eut lieu, et c'est ce qui rendit Bob non moins nègre que Grip.
« Bah, on en serait quitte pour se savonner la figure et les mains à bord du Vulcan, dans le poste où couchait le chauffeur. »
À bord, le poste, Bob ne pouvait y croire. Un instant après, les trois amis, sans oublier Burke, embarquaient dans le you-you que Grip conduisait à la godille, à l'extrême joie de Bob de se sentir balancé de cette façon. Et en moins de 2 minutes, ils avaient accosté le Vulcan. Le maître d'équipage adressa un signe de la main à Grip, un signe de franche amitié, et le chauffeur fit descendre ses invités par le capot de la chaufferie, laissant Burke courir sur le pont. Là, une cuvette, disposée au pied du cadre de Grip, fut remplie d'une belle eau claire, et leur permit de recouvrer leur couleur naturelle. Puis, tandis qu'ils s'habillaient, Grip raconta son histoire. Lors de l'incendie de la Rugged School, assez grièvement blessé, il était entré à l'hôpital, où il resta 6 semaines environ. Il n'en sortit qu'en parfait état de santé, toutefois sans aucune ressource. La ville s'occupait alors de réinstaller l'école des déguenillés, car on ne pouvait laisser ces misérables à la merci des rues. Mais, au souvenir des quelques années passées dans cet abominable milieu, Grip ne se sentait aucun désir de le réintégrer. Vivre entre M. Hotbotkins et la vieille Chris, surveillé de mauvais garnements tels que Carker et ses camarades, cela n'avait rien d'enviable. Et d'ailleurs, petit bonhomme n'était plus là. Grip savait qu'il avait été emmené par une belle dame. Ou, il l'ignorait. Et lorsqu'il fut hors de l'hôpital, les recherches faites à ce sujet demeurèrent sans résultat. Voilà donc que Grip abandonne Galway. Il court les campagnes du district. Entre-temps, Il trouve un peu de travail dans les fermes à l'époque de la moisson. Pas de position fixe, et c'est ce qui l'inquiète. Il va devant lui de bourgade en bourgade, pouvant à peine se suffire. Moins malheureux, cependant, qu'il avait été du temps de la Rugged School. Un an plus tard, Gwip était arrivé à Dublin. Il eut alors l'idée de naviguer. Être marin, ce métier lui semblait plus sûr, plus nourrissant que n'importe quel autre. Mais à 18 ans, il est trop tard pour être mousse, et même pour être novice. Eh bien, puisqu'il n'était plus d'âge à embarquer comme matelot, puisqu'il ne connaissait rien de cet état, il embarquerait comme soutier, et c'est ce qu'il avait fait à bord du volcan. Logé au fond des soutes, au milieu d'une atmosphère de poussière noire, respirer un air étouffant, ce n'est peut-être pas l'idéal du bien-être ici-bas. Bon, Gwip était courageux, laborieux, résolu, et c'était la vie assurée. Sobre, zélé, il s'accoutuma vite à la discipline du bord. Jamais il n'encourut aucun reproche. Il conquit l'estime du capitaine et de ses officiers, qui s'intéressèrent à ce pauvre diable sans famille. Le Vulcan naviguait de Dublin à New York ou autre port du littoral est de l'Amérique. Pendant 2 ans, Gwip traversa nombre de fois l'océan, étant chargé de l'arrimage des soutes et du service du combustible. Puis l'ambition lui vint. Il demanda à être employé comme chauffeur sous les ordres des mécaniciens. On le prit à l'essai et il ne tarda pas à satisfaire ses chefs. Aussi, son apprentissage terminé, lui confia-t-on la place de premier chauffeur. Et c'est en cette qualité que Petit Bonhomme venait de retrouver son ancien compagnon de la Rugged School sur les quais de Queenstown. Il va sans dire que le brave garçon, de parfaite conduite, éprouvant peu de goût pour les coureurs de bordée et les forcenés noceurs dont il y a tant dans la marine marchande, avait toujours voulu mettre de côté sur ce qu'il gagnait. Il possédait donc quelques économies qu'il voyait mensuellement grossir, une 60aine de livres dont il n'avait jamais voulu opérer le placement. Tirer intérêt de son argent, est-ce que cela lui serait venu à l'idée? Et n'était-ce pas déjà d'une invraisemblance rare que Gwip eût de l'argent à placer? Telle fut l'histoire que Gwip raconta gaiement. Histoire à laquelle Petit Bonhomme répliqua en racontant la sienne. Elle était autrement mouvementée, et Gwip ne put en croire ses oreilles lorsqu'il entendit parler des succès dramatiques de Miss Anna Weston, de cette existence honnête et heureuse des fermiers de Kerouan, des malheurs qui avaient frappé la famille, maintenant dispersée et dont on n'avait plus de nouvelles, puis de l'opulence de Tredingar Castle et des prouesses du comte Ashton, enfin de la façon dont tout cela avait fini. Bob dut aussi donner quelques renseignements biographiques sur lui-même. La biographie de Bob, mon Dieu que c'était simple, il n'en avait pas. Sa vie ne commençait véritablement que du jour où il avait été recueilli sur la grande route, ou plutôt repêché dans le courant de la Dripsea, alors qu'il avait voulu mourir. Quant à Burke, son histoire était celle de son jeune maître. Aussi s'abstint-il de la raconter, à quoi il n'aurait pas manqué sans doute, si on l'en eût prié. « Et à présent, il n'est que temps de les déjeuner, » dit le premier chauffeur du Vulcan. « Pas avant d'avoir visité le navire, » répondit vivement Petit Bonhomme. « Et grimper au haut des mâts, » ajouta Bob. « Comme ça vous plaira, mes boys, » répliqua Gwip. On débuta par descendre dans la cale à travers les panneaux du pont. Quel plaisir éprouva notre négociant en herbe à voir ce superbe arrimage, des balles de coton, des boucaux de sucre, des sacs de café, des caisses de toutes sortes renfermant les produits exotiques du Nouveau Monde. Il flairait à plein nez cette pénétrante odeur de commerce. Et dire que toutes ces marchandises avaient été achetées au loin pour le compte des armateurs du Vulcan qui allaient les revendre sur les marchés du Royaume-Uni. Ah, si jamais, Petit Bonhomme... Gwip interrompit ce rêve, invitant son boy à remonter sur le pont afin de le conduire aux cabines du capitaine et des officiers disposés sous la dunette. tandis que Bob, grimpant aux enfléchures des haubans, s'échevalait sur les barres du mât de misaine. Non, de sa vie, il n'avait été si heureux, si joyeux, si souple, si singe. Et peut-être y avait-il en lui l'étoffe d'un mousse. À 11 heures, Gwip, petit bonhomme, et Bob étaient assis devant une table dans le cabaret de Lodge Seaman. Berk sur son derrière, la bouche à la hauteur de la nappe, et si tous avaient appétit, nous le laissons à imaginer. Mais aussi, quel repas dont Gwip avait voulu prendre la dépense à son compte. Des œufs au beurre noir, du jambon froid, doublé d'une tremblotante gelée couleur d'or, du fromage de Chester, le tout arrosé d'une excellente ale écumeuse. Et il y eut du homard, non le vulgaire crabe, le tourteau du pauvre, du vrai homard, d'un blanc rosé dans sa carapace rougie à l'eau bouillante, du homard des riches, et que Bob déclara supérieur à tout ce qu'on peut inventer de meilleur pour se mettre dans le ventre. Il va de soi que manger n'empêchait point de causer. On parlait la bouche pleine, et si cela ne se pratique pas chez les gens comme il faut, nos jeunes convives donneront pour excuse qu'ils n'avaient point de temps à perdre. Et alors, que de souvenirs échangés entre Gwip et petit bonhomme, tandis qu'ils subissaient cette existence dégradante de la Rugged School. Et l'affaire de la pauvre mouette, et le cadeau du fameux gilet de laine, et les abominations de Carker. Qu'est qu'il est devenu, ce gueux ? Demanda Gwip. Je ne sais, et ne tiens guère à le savoir, répondit petit bonhomme. Ce qui pourrait m'arriver de plus malheureux, ce serait de le rencontrer. Sois tranquille, tu ne le rencontreras point, affirma Grip. Mais puisque tu vends des tas de journaux, mon boy, je te conseille de les lire quelquefois. C'est ce que je fais. Eh bien, tu liras un de ces jours que ce schnappant de Carker est mort d'une fièvre de chanvre. Pendu ? Oh, Grip ! Oui, pendu. Et ça, il ne l'aura pas volé. Puis les détails de l'incendie de l'école revenaient à la mémoire. C'était Gwip qui avait sauvé l'enfant au péril de sa vie, et c'était la première fois que celui-ci avait l'occasion de l'en remercier. Et il l'en remerciait en lui serrant les mains. « C'est que j'ai toujours pensé à toi depuis que nous avons été séparés, » dit-il. « T'as eu raison, mon boy. »« Il n'y a que moi qui n'ai pas pensé à Gwip, » s'écria Bob avec l'accent d'un profond regret. « Puisque tu me connaissais que de nom, pauvre Bob !» répondit Gwip. « Maintenant, tu me connais. »« Oui, et je parlerai toujours de toi quand nous causerons, nous deux, Burke. » Burke répondit par un aboiement confirmatif, ce qui lui valut une épaisse sandwich au lard dont il ne fit qu'une bouchée. En dépit de ce que lui affirmait Bob, il ne semblait point avoir de goût pour le homard. Gwip fut alors interrogé sur ses voyages en Amérique. Il parla des grandes villes des États-Unis, de leur industrie, de leur commerce, et petit bonhomme l'écoutait si avidement qu'il en oubliait d'avaler. « Et puis, fit observer Gwip, il y a aussi de ces grandes villes en Angleterre, et si tu te rends jamais à Londres, à Liverpool, à Glasgow... »« Oui, Gwip, je sais, j'ai lu dans les journaux, des villes de négoce, mais c'est loin. »«
Non, pas loin. »«
Pas loin pour les marins qui vont en bateau, tandis que pour les autres... »«
Eh bien, et Dublin ?» s'écria Gwip. « Ce n'est qu'à 300 000 d'ici. Les trains vous y débarquent en une journée, et pas de mer à traverser. »«
Oui, Dublin, » murmura petit bonhomme. Et cela répondait si directement à son plus ardent désir qu'il demeura pensif. « Vois-tu, » reprit Gwip, « c'est une belle ville où l'on fait des mille d'affaires. Les navires se contentent pas d'y relâcher comme à Cork. Ils prennent des chargements. Ils reviennent avec des cargaisons. » Petit bonhomme écoutait toujours, et sa pensée l'entraînait. Tu devrais venir t'installer à Dublin, dit Grip. Je suis sûr que tu ferais des choses mieux qu'ici. Et s'il te fallait un peu d'argent. Nous avons des économies, Bob et moi, répondit petit bonhomme. « Je crois bien !» appuya Bob, qui tira 1 shilling et 6 pence de sa poche.
« Moi aussi j'en ai, » dit Quip, « et je ne sais où les fourrer. »«
Pourquoi ne les places-tu pas dans une banque, quelque part ?»«
Et pas confiance. »
« Mais alors tu perds ce que cela pourrait te rapporter en intérêt, Gwip. »«
Ça vaut mieux que de perdre ce qu'on a.
Par exemple, si je n'ai pas de confiance dans les autres, j'aurai confiance en toi, mon boy. Et si tu venais à Dublin, qui est le port d'attache du Vulcan, on se verrait souvent. »«
Quel bonheur! Et je te le répète, si pour entreprendre un commerce, il te fallait un peu d'argent, je te donnerais volontiers tout ce que j'ai. »
L'excellent garçon était prêt à le faire. Il était si heureux d'avoir retrouvé son petit bonhomme. Est-ce qu'il ne semblait pas qu'ils fussent liés l'un à l'autre par un lien que nul incident ne saurait jamais rompre ?
« Viens donc à Dublin !» répéta Gwip. « Veux-tu que je te dise ce que j'en pense ?»«
Dis, mon Gwip. Eh bien, j'ai toujours eu cette idée, comme ça, que tu ferais fortune. »«
Moi aussi !» « J'ai toujours eu cette idée-là !» répondit simplement petit bonhomme, dont les yeux brillaient d'un éclat vraiment extraordinaire.
« Oui !» continua Grip, « je te vois riche, un jour, très riche. Mais ce n'est pas à Cork que tu gagneras beaucoup d'argent. Réfléchis à ce que je te dis là, car il ne faut pas agir sans avoir réfléchi. »
« Comme de juste, Grip.
Et maintenant qu'il n'y a plus rien à manger ?» soupira Bob en se levant.
« Tu veux dire, Mousse, » répliqua Gwip, « maintenant que tu n'as plus faim ?»«
Oui, peut-être, je sais pas. C'est la première fois que cela m'arrive. »«
Allons nous promener, » proposa petit bonhomme.
Et ce fut ainsi que s'acheva cet après-midi, et que de projets formèrent les trois amis, tandis qu'ils parcouraient les quais et les rues de Queenstown, escortés de Burke. Puis, lorsqu'on fut au moment de se séparer et que Gwip eut reconduit les deux enfants à l'appontement du ferryboat, «
Nous nous reverrons, » dit-il. « On ne peut pas s'être retrouvés pour ne pas se revoir. »«
Oui, Grip, à Cork, la première fois que le Vulcan y relâchera. »«
Et pourquoi pas à Dublin, où il reste des semaines quelquefois. »«
Oui, à Dublin, si tu te décides. » »«
Adieu, Gwip. »
Au revoir, mon boy. » Ils s'embrassèrent de bon cœur, non sans une profonde émotion, dont ni l'un ni l'autre ne cherchait à se défendre. Bob et Burke eurent leur part des adieux, et lorsque le ferryboat eut démarré, Gwip le suivit longtemps des yeux, tandis qu'il remontait en haletant le cours de la rivière.